Salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous parlons des grands-parents, plus jeunes ou en tout cas plus dynamiques qu'autrefois avec l'allongement de l'espérance de vie. Que représentent-ils, qu'apportent-ils aux petits-enfants? On les dit plus disponibles, enfin surtout quand ils sont à la retraite, plus patients, plus ouverts. Bref, plus cool que les parents. Et si c'était eux, dans le fond, les meilleurs parents? Dans le studio, je reçois le psychanalyste et écrivain Patrick Avran. Bonjour.
Bonjour.
Vous racontez dans votre livre que pendant longtemps, les spécialistes de l'enfance ont fait finalement presque l'impasse sur la place des grands-parents dans la vie de l'enfant. Vous venez de publier Les grands-parents, une affaire de famille. C'est parce que vous êtes aussi vous-même devenu grand-père entre-temps ou pas?
C'est sans doute le livre qui est le plus autobiographique de tous ceux que j'ai publiés. C'est pas uniquement parce que je suis devenu grand-père, c'est aussi parce que je me suis aperçu que chez les psychanalystes, les grands-parents, ça n'existe pas. Pour une raison très simple, c'est que quand la psychanalyse a été fondée, elle s'est mise à exister
par
le bon docteur Freud, à cette époque-là, les grands-parents, ils étaient inexistants. Tout au moins, ils étaient relégués. Ils n'avaient absolument pas la place qu'ils ont aujourd'hui, compte tenu de la formidable...
Trop âgés, évidemment.
Oui, et puis, ou souvent absents, décédés.
En tout cas, vous nous faites prendre conscience que les grands-parents sont partout dans notre quotidien, dans les romans, au cinéma, dans les séries télévisées. Il y a désormais toute une génération qui se demande « Mais quel grand-parent ai-je envie d'être ?» À cette question aussi, bien sûr, vous apporterez des réponses les uns et les autres. Armelle Le Bigot-Maco, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente de l'École des grands-parents européens. C'est une fédération qui réfléchit au statut des grands-parents dans la famille, la société aujourd'hui. Et vous êtes vous-même grand-mère de combien de petits-enfants ?
Grand-mère de 3 belles petites filles et d'un vrai petit fils.
C'est ça.
Il y a de la famille recomposée
dans l'air. On en parlera.
Absolument.
Voilà, parce qu'aujourd'hui, on peut être grands-parents de petits enfants qui n'ont rien à voir biologiquement avec soi-même. Les grands-parents qui peuvent être aussi aujourd'hui au cœur de conflits familiaux, privés de leurs petits enfants ou au contraire toxiques pour leur descendance. On en parlera aussi avec vous, Claudine Athias Donfu. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue et vous publiez. Alors, vous avez publié beaucoup de livres sur notamment vieillir en Afrique, sur les populations issues de l'immigration en France. Et vous publiez également Grands-parents. Vous avez travaillé donc sur tout type de famille. Vous êtes vous-même aussi grand-mère.
Je suis grand-mère, oui.
C'est vraiment le club des grands-parents aujourd'hui.
On le revendique.
Et bien exactement, et vous êtes là pour ça.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Je lis quelques messages postés sur les réseaux sociaux, évidemment, vous pouvez commenter. Léon, qui est à Ouagadougou, au Burkina, nos grands-parents sont nos amis, nos complices. Ce sont nos défenseurs contre nos parents. J'observe souvent mon enfant avec ses grands-parents parce que je veux qu'il les écoute et qu'il s'entende. Défenseurs contre nos parents. Ça, quand même, c'est à noter. Ça se vérifie, non?
Ah, c'est normal.
C'est-à-dire qu'en Afrique... Oui. Il y a une tradition, l'éducation est assumée par les grands-parents, par la grand-mère et le grand-père, même beaucoup plus que les parents. Donc il y a une connivence entre les grands-parents et les petits-enfants, et les parents ont surtout un rôle plus autoritaire.
Ouais.
Ça, c'est une tradition en Afrique. C'est pas la
Mais
même chose.
Même si ça change avec l'urbanisation, avec les grands-parents qui sont parfois restés au village et la famille qui vit en ville.
Bien sûr, ça change. Mais c'est pas la même chose dans les pays européens. Où les spécialisations sont divisées selon les pays.
Justement, on va en parler. Brice est à Yaoundé, au Cameroun. Il nous dit, il y a une dizaine d'années, les relations entre grands-parents et petits-enfants étaient houleuses à cause de nos croyances religieuses divergentes. Aujourd'hui, nous avons trouvé un terrain d'entente. On s'aime, on se rend visite régulièrement et ils nous transmettent leurs valeurs ancestrales à travers de belles histoires et des conseils salvateurs. Un autre point de vue, toujours au Cameroun, mais alors au nord, dans une région déshéritée, Maxime est à Marois et voici ce qu'il nous écrit. Les grands-parents sont abandonnés par les jeunes, surtout dans les milieux pauvres. Quand on vieillit, on te prend pour un sorcier, surtout si tu es aveugle ou que tu souffres d'un quelconque handicap. À cause des mauvaises conditions de vie, notre santé se dégrade rapidement et certains nous quittent dès 50 ans. Alors on voit bien comment les grands-parents peuvent être relégués tout simplement pour des raisons économiques, hein, quand la famille ne peut pas supporter le poids économique des grands-parents. Jackie Atana nous dit « À Madagascar, la place des grands-parents se dégrade malheureusement. Ils sont plus vulnérables, presque rejetés par la famille. Avant, ils avaient une place importante, même au sein de la société, car ils représentaient la sagesse. C'est à eux qu'on doit demander conseil ou de l'aide pour prendre de grandes décisions. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Personnellement, mes grands-parents étaient très sympas, généreux. Nous avions une relation fusionnelle. » Ou encore Marlon, qui est à Lubumbashi, dans le sud de la République démocratique du Congo. Et il nous dit, les grands-parents sont victimes de préjugés superstitieux ancrés depuis des générations lorsqu'ils sont vieux, chevrotants de la voix et que leur pas est pesant, on les met de côté. Mais quand ils sont jeunes, on les confond avec les oncles et tantes. Voilà, devinez quelle est la place la plus enviable maintenant.
7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins.
On existe ensemble.
On accueille un voisin qui nous appelle de Guinée. Bonjour Fayala.
Bonjour Emmanuel, bonjour à 7 milliards de voisins.
Fayala, vous êtes à Doko, c'est bien ça, dans le nord-est de la Guinée?
Oui, bien évidemment.
Fayala, vous souhaitez nous parler de vos grands-parents, mais qui sont aujourd'hui décédés?
Oui, Emmanuel.
Je les regrette
beaucoup. Et moi, j'avais des grands-parents qui symbolisaient beaucoup pour moi. D'abord, ils sont signes de tendresse et d'affection. Et ils m'inspiraient beaucoup de la sagesse, comme tous les grands-parents en Afrique en général. Ils m'ont beaucoup appris, surtout sur mon origine d'ailleurs. Ils étaient à la fois un ami à moi, à plaisanterie souvent. Mmh. Ils sont tous là pour moi, pour me défendre lorsque je commettais des bêtises, mes parents. Mmh. Alors, franchement dire, Emmanuel, ses grands-parents sont toujours des amis à plaisanterie. Quelquefois, nos femmes y marient à des situations. Quoi. C'est-à-dire quand c'est nos grands-mères, c'est souvent nos femmes. Alors, c'est plaisanterie.
Vous aviez quel âge quand ils sont décédés, Fayala?
Moi, j'avais 16 ans.
16 ans?
Alors, oui.
Et que vous ont-ils? Alors, on le comprend, vous avez beaucoup ri aussi avec vos grands-parents, hein, c'est ça?
Oui, avec eux, on râlait beaucoup, on plaisantait et on les prenait comme nos femmes à la limite, quoi.
Ouais.
Et donc, comme ça, ils nous ont beaucoup chouchouté. Hein. C'est vraiment adorable, ça, ici en Afrique.
Ouais, beaucoup chouchouté. Le mot est joli, oui. Et bien choisi. S'il y avait un exemple de chouchoutage dont vous vous souvenez en particulier?
Oui, mais des fois, quand je faisais mettre beaucoup de temps à rentrer la nuit chez moi, à la maison. Et c'est elle qui s'inquiétait. Et des fois, quand je revenais de mes promenades, c'est elle qui m'approchait. Il me disait, tiens, où tu t'es parti? Donc, ceci, cela, je m'inquiétais beaucoup pour toi. Et il faut plus reprendre ceci. Alors, du coup, mes parents, ils étaient passés. Hein. Bon, c'est elle qui était là toujours à me protéger d'eux. Voilà.
Oui, vous aviez l'impression de compter peut-être doublement, c'est ça, pour vos grands-parents?
Oui, oui, bien évidemment.
Merci beaucoup de nous avoir appelé Fayala. C'est un beau témoignage que nous livre Fayala sur ses grands-parents. Patrick Avran, c'est vrai que la célèbre psychanalyste pour enfants Françoise Dolto disait toujours il faut replacer l'enfant dans une histoire familiale, donc dans une lignée. Fayala nous dit d'ailleurs il a oui. compris des choses sur ses origines grâce à ses grands-parents. Et pourtant, vous nous le disiez il y a encore quelques minutes, les psys sont longtemps désintéressés de la place des grands-parents dans la vie de l'enfant. Alors autrefois, parce qu'il n'était tout simplement plus là et qu'il mourait jeune. Aujourd'hui, comment, vous qui continuez à recevoir des enfants, des adolescents en consultation, comment les grands-parents apparaissent dans vos conversations avec ces enfants?
Ils apparaissent d'une façon tout à fait particulière, c'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on peut dire des grands-parents? Ils ont fait le boulot, c'est-à-dire que c'est plus à eux de gérer la vie de leurs petits-enfants, c'est à leurs enfants. Et donc, ils ont cette liberté de pouvoir chouchouter, comme vient de dire cet auditeur, leurs petits-enfants, dans la mesure où ils sont débarrassés d'un certain nombre de contraintes qu'ils ont eu quand ils étaient parents eux-mêmes. Et ça, ça reste, et c'est toujours présent. Et quand on reçoit des enfants, on voit bien qu'il y a à certains moments ce qu'ils peuvent nous dire à travers ce qu'ils racontent à leurs grands-parents. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, le psychanalyste qui reçoit un enfant a parfois une place de grand-parent, parce qu'on lui dit ce qu'on ne dit pas à ses parents, mais peut-être que ce qu'on dirait, c'est ce qu'on dirait à son grand-père ou sa grand-mère. Et là, on voit qu'il y a quelque chose à la fois qui est de l'ordre de la transmission, c'est-à-dire que les grands-parents sont toujours porteurs de l'histoire, de la petite histoire de la famille, c'est-à-dire qu'ils racontent comment étaient leurs ancêtres, etc. Et puis aussi de la grande histoire d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils peuvent dire que, comme un jour un de mes petits-fils m'a demandé, comment tu faisais quand tu étais petit, quand il n'y avait pas Google ? Je lui ai dit, écoute, il n'y avait pas d'ordinateur.
C'est une bonne question.
Ah oui, il se demande. Et moi aussi, du coup, je me suis demandé comment je faisais. Et quand j'ai commencé à lui dire, tu sais, quand j'étais vraiment tout petit, il n'y avait même pas de réfrigérateur. Il y avait encore, à ce moment-là, c'était rare, il y avait encore des glacières et il y avait un marchand de glace qui passait porter des pains de glace. Et il m'a, à ce moment-là, il m'a demandé s'il y avait des dinosaures dans la rue. Donc j'étais obligé de remettre en place les choses. Et je pense que les grands-parents, ça sert à ça hein, aussi, c'est-à-dire à inscrire chaque petit enfant dans l'histoire de sa famille et puis dans l'histoire de l'humanité en général.
Ouais. Et pour vous, Armel Le Bigot Maco, comment vous voyez ce rôle des grands-parents à l'échelle européenne, puisque votre fédération regroupe diverses associations de grands-parents ?
Mais moi, j'ai envie de rebondir effectivement sur ce petit mot de chouchouter. C'est vraiment ce que les grands-parents souhaiteraient pouvoir faire, parce que eux disposent d'un temps que la génération des parents n'a pas. Donc la première demande de ces petits-enfants, c'est du temps avec papy-mamie, parce que là, en effet, on a l'impression. Ce qui est d'ailleurs assez souvent faux, parce que les papy-mamies sont très, très, très occupés en Europe. Mais quand même, symboliquement, c'est ce temps-là. Mais moi, ce qui m'importe par rapport à ce que j'ai entendu là de ce témoignage merveilleux, c'est en effet cette transmission dans les deux sens, c'est-à-dire que les grands-parents transmettent bien sûr, mais les enfants portent aussi les grands-parents avec cette espèce d'énergie qu'ils leur insufflent. Et moi, notre drame en Europe, c'est que beaucoup de grands-parents sont coupés de leurs petits-enfants, donc nous avons un halo grands-parents où on reçoit des plaintes terribles de grands-parents qui aujourd'hui transmettent un peu sous contrôle et n'ont plus cette liberté qu'il y avait avant.
Coupés parce que un éloignement géographique ou coupé à cause de conflits,
beaucoup
de divergences entre parents et grands-parents.
On va dire aussi des règlements de compte, beaucoup de règlements de compte du fait des divorces, sans doute aussi des mariages mixtes qui font que tout d'un coup, c'est un peu la pression de cette génération du milieu qui coupe les petits-enfants des parents parce que c'est une façon aussi de régler les conflits avec les parents. Donc c'est vraiment, c'est assez douloureux, ça devient douloureux alors que c'était une belle histoire telle que vous nous l'avez racontée et telle que
effectivement, la situation n'est pas toujours idyllique. Claudine Attias Donfu, vous avez beaucoup travaillé sur les populations d'origine étrangère en France. Alors par définition, on a des enfants aujourd'hui en France, nés en France, mais qui grandissent loin géographiquement ou loin culturellement de leurs grands-parents, qui eux ne sont pas venus en Europe.
Oui, ça c'est effectivement un manque, surtout aussi pour les parents, parce qu'il faut rappeler que si les grands-parents ont un rôle central depuis quelques décennies, c'est en raison du développement du travail des féminins et c'est en raison des besoins extrêmement importants des jeunes parents d'être secondés pour élever les enfants et pour les garder. Et donc, il n'y a jamais eu, même au cours de l'histoire, un investissement aussi important des grands-parents auprès de leurs petits-enfants.
Alors, effectivement, on a beaucoup dit que ça avait d'ailleurs amorti les crises économiques en Europe.
En plus,
garder les enfants, etc.
Il y a une aide économique là, dont vous parliez, amortie des crises économiques, parce que aussi un phénomène très important, c'est le développement des retraites, qui existe beaucoup moins en Afrique et qui explique le déclin un peu du rôle grand-parental et de la situation des personnes âgées en Afrique. Mais en Europe, cette action, cette aide des grands-parents est devenue extrêmement importante dans la plupart des familles qui ont la chance d'avoir des grands-parents à proximité. Alors, vous parliez des immigrés en France. Et effectivement, c'est un manque extrêmement important lorsqu'ils ne peuvent pas faire venir leurs parents en France. Et ils doivent assurer la garde, l'éducation des enfants sans avoir la famille élargie dont ils avaient l'habitude dans les pays originaires. Et donc, cette absence de la famille élargie pour aider les parents donne beaucoup plus de difficultés, surtout que ce sont souvent des familles nombreuses.
En France, les grands-parents sont un peu plus de 15 millions. Est-ce que, alors moi j'ai découvert qu'en en fait, les femmes deviennent grand-mères en moyenne à 54 ans, ce qui est quand même assez jeune, hein. 56 ans pour les hommes. Et évidemment, ces grands-mères sont des femmes qui ont travaillé. Du fait, bon, dans un pays comme la France, on a le taux d'activité féminin l'un des plus importants d'Europe. Ça donne des grands-mères un peu différentes, non, par rapport aux autres générations.
Sans doute, oui.
Tricot-confiture,
qui ont travaillé,
pas seulement.
Ou qui travaillent toujours.
Oui, c'est ça, ou qui travaillent toujours.
Ou qui travaillent toujours. Effectivement, il y a une présence aujourd'hui des grands-parents dans la vie des petits-enfants, je pense, qui est différente de celle qu'ont connue justement ces grands-parents-là. Ils n'avaient, ces grands-parents, pas les mêmes relations avec leurs propres grands-parents, qui étaient en général plus âgés ou tout au moins plus fatigués, pour dire ça comme ça. Et cette présence dans la vie, on peut dire dans la vie quotidienne, à la fois, c'est une aide économique sans doute, mais pas uniquement, c'est justement, ils portent, ces grands-parents, une part de cet investissement affectif que ne peuvent pas pleinement donner les parents. Alors la contrepartie, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que quand il y a des conflits qui n'ont pas été résolus entre les parents et les enfants, malheureusement parfois ça revient. Et ça ressort au moment de la naissance des petits-enfants. Parce qu'il y a quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Ce sont les parents qui font les enfants. C'est comme ça habituellement. C'est toujours comme ça. En revanche, ce sont les enfants qui transforment leurs parents en grands-parents. Il y a quelque chose qui n'a rien à voir du côté de la demande. Les grands-parents, ils sont très heureux. Parfois, ils attendent d'être des petits-enfants, mais ce n'est pas eux qui décident. Il y a quelque chose qui leur échappe, là.
Alors justement, j'avais envie de rebondir sur... Pourquoi école des grands-parents? Parce qu'on me pose toujours la question. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Pour votre fédération, oui.
Des grands-parents, la fédération. Ben c'est exactement ça la raison.
Apprendre à devenir grand-parent.
Et aujourd'hui, c'est, je le répète, particulièrement compliqué parce que toute cette espèce de pression, ce qu'on avait avant, ben voilà, de raconter son enfance, comment, aux petits-enfants, comment tes parents étaient quand ils étaient petits. Aujourd'hui, on ne sait même plus si on a le droit de dire ça parce que les parents, la génération du milieu, a un projet éducatif pédagogique qui fait que, assez souvent, je le répète, on a le droit de faire ce qui nous autorise à faire. Et pas tout, absolument pas tout. Il n'y a plus cette liberté totale que les grands-parents avaient. Donc, il faut apprendre, par exemple, aux grands-mères, quand elles vont découvrir leur petit-fils, c'est pas mon bébé chéri. Ah non, 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 c'est pas ton bébé, c'est le bébé de tes enfants. Donc, que je suis une grand-mère comblée. Mais il ne faut surtout pas employer ces mots-là parce que ça déclenche des
réactions. Je veux dire, la psychanalyse est passée par là et donc les parents veulent absolument se réapproprier quelque chose qu'il pourrait perdre.
C'est la psychanalyse mal comprise. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une différence entre, je dirais, des grands-parents rapteurs, ce qui n'est quand même pas la généralité, et des grands-parents qui sont à leur juste place. Une grand-mère peut dire c'est mon bébé à ce petit enfant qui vient de naître, sans effectivement vouloir rapter l'enfant. Ce qui se passe, effectivement, c'est ce que je disais, c'est quand quelque chose n'a pas été complètement bien, ne s'est pas bien joué entre les parents et les enfants. Hein. C'est-à-dire quand, par exemple, une mère se rend compte à ce moment-là combien ses parents ont été autoritaires ou bien ont voulu l'emmener dans une certaine voie.
Je vais te le faire payer avec tes petits-enfants.
Il y a quelque chose comme
voir,
ça.
C'est ça?
Oui, je vais te le faire payer. C'est-à-dire que tu ne vas pas faire la même chose avec eux.
Oui, il faut préciser qu'il est extrêmement rare de trouver la même conception de l'éducation entre les parents et les grands-parents. On peut dire que c'est pratiquement une règle. Ils n'ont pas la même idée de l'éducation. Et donc ça, il faut le savoir.
Mais
d'abord, ce sont des générations différentes.
Mais y compris pour les générations précédentes.
Mais ça s'est bien passé. Mais il faut savoir qu'il y a toujours des conflits latents, larvés, ou explicite sur le phénomène de l'éducation. Dans nos enquêtes dans nos enquêtes quantitatives, les conflits à l'égard de l'éducation ou les désaccords à l'égard de l'éducation étaient très majoritaires. Mais les grands-parents doivent apprendre finalement à avoir un rôle second après celui des parents, parce que ce sont les parents qui sont responsables de l'éducation.
Alors, en tout cas, aujourd'hui, on vit quand même dans un monde bercé par l'inquiétude, où l'enfant a beaucoup de pression. Que peuvent apporter les grands-parents? On se retrouve juste après le flash sur RFI. Salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. On parle des grands-parents aujourd'hui et si c'était eux les meilleurs parents. En tout cas, on reçoit vraiment des messages absolument formidables de nos auditeurs. Alors, c'est peut-être une question un peu provocante hein, qui mérite d'être posée quand on voit les difficultés dans lesquelles se débattent bon nombre de parents qui sont débordés, longues journées de travail, vie de couple en pleine tempête, difficultés financières. Et évidemment, par rapport à ça, les grands-parents sont bien souvent appelés à la rescousse, une aide salutaire, mais aussi à double tranchant. Les grands-parents donnent leur avis, c'est bien embêtant. Allez, appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. On en discute, on a créé un club d'experts, experts et grands-parents en même temps. Patrick Avran, psychanalyste, vous publiez Les grands-parents, une affaire de famille. Armelle Le Bigot-Maco, vous êtes présidente de l'École des grands-parents européens, une fédération qui réfléchit au statut des grands-parents dans la famille, dans la société. Mais alors, ça va de la Norvège à l'Italie, hein, c'est bien ça, avec
oui,
des conceptions.
Oui, avec des différences considérables. Entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, c'est deux planètes. Hein. Le rôle des grands-parents n'est pas du tout le même.
Et Claudine Attias-Donfu, sociologue, vous avez publié Grands-parents, mais vous avez aussi beaucoup travaillé sur la vieillesse sur le continent africain. Je vous lis le message de Cham à Abidjan qui nous dit « Les grands-parents sont des bibliothèques, nous devons les écouter. Ma grand-mère était comme une mère pour moi. Aujourd'hui, elle me manque tellement fort. » Évidemment, allusion à l'écrivain malien Amadou Mpateba. Et puis, on a aussi le message de Jean-Rémy qui est à Yaoundé qui nous dit « J'ai été élevée par mes grands-parents maternels, grand-père Gary, grand-mère Marguerite. Ils étaient adorables, ils sont à présent décédés. Je suis triste que mon grand-père ne voit pas l'homme que je suis devenue aujourd'hui. Et les attentions de ma grand-mère me manquent terriblement. Lorsque je boitais, elle restait avec moi jusqu'à ce que je m'endorme pour s'assurer que je ne me sois pas blessée. Chers grands-parents, je voudrais de tout cœur vous remercier pour la philosophie de la vie que vous m'avez inculquée. Et aujourd'hui, je suis tellement fière de porter votre nom. » Voilà, on donne la parole à un auditeur, Boniface, nous appelle de Moundou au Tchad. Bonjour Boniface.
Bonjour Emmanuel, à tous les voisins et voisines.
Boniface, nous vous écoutons, vous êtes dans la capitale économique du Tchad.
J'ai grandi avec ma grand-mère Malaye Isabelle. Elle m'a élevé comme une mère. Elle était trop gentille, m'a encouragé dans mes études en me donnant une poule. La production des œufs a permis de financer une partie de mes études et d'autres services. Elle m'a quitté le 11 avril 2011 et je souhaiterais lui rendre hommage.
Mmh. Oui, vous avez cette date qui semble gravée dans votre mémoire, Boniface.
Oui.
Et donc, ce qui vous a marqué, c'est assez symbolique, c'est cette poule que vous a donnée votre grand-mère et par la vente des œufs, vous avez pu payer votre scolarité.
Oui, parce que cette œuvre-là, ça m'a permis de rendre où je peux aller. Donc, ça m'a permis aussi de faire aussi autre activité comme les amis font. Donc, tout ça là, donc, ça me rappelle le temps où je suis resté avec ma grand-mère.
Elle vous a en partie élevé, c'est bien ça, ou vous avez été élevé par vos parents biologiques?
Elle m'a en partie élevé au moment où j'ai l'âge de 23 ans. Jusqu'à arriver au moment où elle est décédée.
Hum. Vous aviez quel âge quand elle est décédée? 23 ans?
Au moment, j'ai 23 ans.
C'est ça. Et aujourd'hui, vous avez 27 ans et vous la regrettez encore. Merci beaucoup de nous avoir appelés, Boniface. Et puis, c'est un bel hommage que vous lui rendez. Je suis sûre qu'ils nous entendent tous, là, les grands-parents défunts. Serge nous écrit, il est à Dakar, il est burkinabé. Il nous dit qu'il a été élevé par ses grands-parents de 3 à 7 ans avant de déménager dans la capitale. Et il nous parle de ses très heureux souvenirs, une époque formidable. Plus tard, quand ma grand-mère venait nous rendre visite dans la capitale, c'était une renaissance. Mes parents ne pouvaient plus lever la main sur mes frères et moi. Nous avions la force avec nous. Waouh. Abdoulaye à Dakar également nous envoie ce message. J'ai été élevée par ma défunte grand-mère. Elle m'a tout donné, me parlait de tout. Elle ne me cachait rien de tout ce qui se passait au village. Et aujourd'hui, je la regrette vraiment. Ses conseils resteront gravés dans ma mémoire. Rachel, alors elle est à Chennai en Inde. Lorsque j'étais petite, mes grands-parents maternels vivaient chez nous. Ils étaient extrêmement vivants. Ils partageaient toutes les tâches ménagères. Mon grand-père, ingénieur mécanicien, m'aidait en mathématiques. Mes parents les consultaient avant de prendre des décisions importantes. Et ils étaient vraiment stricts. Ils m'ont transmis beaucoup de valeurs de vie. Bref, ma jeunesse a été incroyable grâce à leur présence. Évidemment, aujourd'hui, les choses ont tout de même changé. La question n'est pas de savoir si c'est en bien ou en mal, mais ça a beaucoup changé, non ?
Oui, mais c'est aussi les normes sociales qui sont différentes. Bon, en Afrique, c'est vrai que les éducateurs en premier sont les grands-parents. En France, en Europe, ce sont les parents. Et surtout, avec le développement de la psychanalyse, les parents se sont vraiment complètement investis du rôle éducatif. Et même si autrefois, par exemple, pendant la guerre, ils pouvaient confier leurs enfants à leurs parents, ça ne se fait plus maintenant. C'est en fait, ils peuvent se sentir coupables de ne pas assumer complètement le rôle éducatif. Ce qui n'est pas du tout le cas en Afrique. Ce sont deux modèles éducatifs et des modèles de société complètement différents. Mais évidemment, en Afrique, les choses changent parce que le statut des personnes âgées change et qu'il y a une dévalorisation d'un statut qui était autrefois très privilégié et qui n'a pas pu se redresser avec un développement des retraites. En France, le statut des grands-parents s'est amélioré grâce à la généralisation des retraites, grâce à une meilleure autonomie économique.
Même s'il y a maintenant aussi une paupérisation de cette population-là.
Il y a une paupérisation, mais ça n'a rien à voir avec celle qu'il y avait dans les années 50 et dans les années 60. Et donc, cette autonomie et cette capacité d'aider les enfants et les petits-enfants a revalorisé le rôle des grands-parents. Mais il reste que ce sont les parents qui sont les éducateurs en premier. Et qu'il n'est pas question que ce soit les grands-parents qui se substituent aux parents.
Donc c'est ce que vous dites aussi, Patrick Avran. Les grands-parents sont par définition, en tout cas en théorie, déchargés du fardeau de l'éducation. C'est ce qui leur donne le beau rôle quand même.
Ils sont déchargés du fardeau de l'éducation, ça leur donne le beau rôle. Mais il y a quelque chose qui transcende tout ça, c'est leur place d'idéal. C'est ce qu'on vient d'entendre, c'est ce que tous nous ont dit, vos éditeurs et vos auditeurs.
Oui,
et
c'est des témoignages sûrement largement aussi assez idéalisés.
Oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui est constant, c'est que les grands-parents, qu'ils soient présents ou pas, incarnent un idéal qui est celui qui transcende leur propre stature, leur propre présence. Et c'est pour ça que c'est dramatique quand un petit enfant est absolument coupé de ses grands-parents, c'est qu'il ne peut plus mettre de figure sur cet idéal. Ce qui est de merveilleux de ce que nous ont tous les témoignages qu'on a eus, c'est combien cet idéal, on le voit s'incarner. Et c'est en ça que c'est important. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus facile de mettre une figure sur celui qu'on imagine que d'avoir quelqu'un qu'on ne peut absolument pas rencontrer.
Alors moi, c'est ce que je voudrais rajouter, c'est qu'on a fait une étude, qui ne concernait que la France, sur une étude miroir auprès des grands-parents, auprès des parents, auprès des ados et auprès des enfants, en leur disant qu'est-ce que tu attends de tes grands-parents et les grands-parents, quelle est votre mission là. Et on a découvert, par exemple, que le sens de la famille, les grands-parents, ils nous mettaient ça en quatrième ou cinquième position, alors que pour les petits-enfants, c'était ça qui arrivait en premier. C'est-à-dire vraiment ce besoin, ce que vous exprimez, ce besoin de leur expliquer comment fonctionne une famille. D'ailleurs, en ce moment, on est en train de lancer un truc qui s'appelle les cahiers d'activités complices, parce qu'on va faire aux grands-parents et aux petits-enfants ce travail ensemble de reconstituer l'arbre généalogique, de se donner des occasions de parler, de se parler. Et les grands-parents ont ce rôle d'éducateur, plus tellement au sens des études, parce que la pression parentale elle est tellement forte qu'ils n'osent plus aller là, mais au sens découvrir des talents chez les petits-enfants. Et ça, c'est formidable, parce que les grands-parents ont le temps de découvrir qu'effectivement, la petite fille, au fond, quand on la met à faire de la couture, elle adore ça, ou le sens théâtral. Enfin, il y a vraiment toute cette nouvelle relation grands-parents-petits-enfants, quand ils ont le droit de l'avoir, mais j'entendais ces témoignages, et je me disais, c'est vrai que cette phrase formidable, c'est que le tombeau des morts, c'est vraiment le cœur des vivants. Et quand on les entend parler de leur grand-mère qui vivent encore tellement fort dans leur cœur, ça fait rêver et ça doit faire une peine terrible à ces grands-parents qui nous appellent et qui, eux, n'ont plus cette possibilité de croire que quelque part, ils auront encore ce rôle auprès de leurs petits-enfants.
Et il faut rappeler que, aussi anthropologiquement, le petit-enfant, c'est la réincarnation du grand-parent. Et lorsqu'on interroge même des adultes sur leurs grands-parents, on voit qu'il y a presque toujours une identification avec quelque chose, soit avec un trait de caractère, soit avec un trait physique, soit avec un métier.
Un animal, oui.
Voilà, une forme d'identification à ses grands-parents, pas seulement chez les enfants, mais chez les adultes. C'est vraiment une parenté ou une filiation qui réintroduit dans la chaîne des générations et qui est extrêmement importante, hein, qui reste et qui dure toute la vie.
Aujourd'hui, on n'appelle plus les grands-parents de la même façon qu'il y a 20 ou 30 ans. Est-ce que ça a du sens ou pas, le fait que beaucoup de grands-parents n'ont pas envie de se faire appeler mamie, mémé, pépé
Alors, je commence dans mon livre par une histoire vraie. C'est une grand-mère qui n'avait pas fait attention et qui s'était laissée appeler mémé par ses premiers petits-enfants. C'était des jumeaux. Et puis un jour, elle en a eu assez quand même. Elle dit « Mémé, ça va pas. » Ils avaient 2-3 ans. Elle les met dans sa voiture après leur avoir expliqué « Écoutez, à partir de maintenant, vous n'allez plus m'appeler mémé, vous allez m'appeler mamé. » Bon, elle trouvait que ça faisait plus jeune. Voilà, la voiture démarre et puis au premier feu rouge, il y en a un des deux qui dit « Dis mémé, c'est qui mamé ?» C'est-à-dire qu'on voit là qu'il y a quelque chose qui est quand même au cœur aussi des grands-parents d'aujourd'hui. Ils ont cette tradition, ils sont mémés comme eux-mêmes, leurs grands-parents étaient. Et puis en même temps, ils sont quand même plus modernes, c'est-à-dire que ce mot de mémé, ça correspond à quelque chose qu'ils ne sont plus vraiment. Et ils sont tiraillés entre ces deux et les façons de les appeler... Alors, dans mon histoire, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que finalement, cette grand-mère aujourd'hui, ses petits-enfants qui ont 16 ou 17 ans, ce sont les seuls dans la rue à l'appeler mémé, donc elle sait que c'est elle. Parce qu'aucune grand-mère ne se fait appeler comme ça, en tout cas à Paris.
Oui, c'est ça, ça fait un peu village, hein, en fait.
Pour aller dans le même sens, il faut rappeler qu'il y a les arrière-grands-parents actuellement, qu'on est dans une société, une famille à 4 générations. Donc les noms sont pris parfois par les arrière-grands-parents qui sont toujours là. Donc il faut inventer des
nouvelles alors on a maintenant des surnoms à inventer à partir du propre prénom, ce qui place un peu le grand-parent aussi un peu dans un statut d'ami, de copain.
Je pense que c'est quand même bien de trouver quelque chose. C'est-à-dire qu'un grand-parent, c'est comme les parents, les appeler par leur prénom, ça en fait des personnes différentes. C'est-à-dire, ce ne sont pas des prénoms. Il faut trouver quelque chose qui les mette à leur place.
Bon, alors vous, comment vous vous faites appeler, puisque vous êtes tous grand-père et grand-mère ?
J'oserais pas le dire.
Ah bon, pourquoi? Oui, on a l'impression que c'est une question presque intime, non?
Non, c'est pas une question intime. Moi, il m'appelle Pépé. C'est pour ça que j'ose pas le dire.
Vous l'avez décidé, vous l'avez proposé, vous l'avez...
Ça s'est fait comme ça, j'ai pas fait attention.
Non, alors effectivement, moi je suis censée être nonne, parce que maman était italienne, sauf qu'en Italie, les grands-mères ne s'appellent plus nonne, parce que les femmes italiennes qui ont vu leur mère, la mamma italienne, qui donnait toute sa vie à ses enfants et à ses petits-enfants, elles n'en veulent plus. Du coup, cette symbolique du nom, en Italie, est en train de disparaître complètement. Du coup, moi je me la revendique, si ce n'est qu'en français, c'est absolument...
Donc vous êtes nonna.
Nonna, oui, mais autant en Italie, nonne, c'est super, en français, nonna, c'est pas très jolie. Voilà, donc assez souvent, ça dérape.
Et vous, Claudine?
Alors, pour moi, c'est une contraction. Je m'appelle Claudine, mamie Claudine, donc c'est Madine.
Ah, c'est joli, Madine. Nous donnons la parole à un auditeur qui nous appelle de Banfora, au Burkina Faso. Bonjour, c'est Attila, hein, c'est bien ça. Bonjour, Attila.
Oui, c'est Emmanuel, je vous salue.
Soyez le bienvenu chez les 7 milliards de voisins. Attila, je crois que vous êtes belge, c'est bien cela?
Voilà, je suis né en Belgique en 52 et j'ai eu une éducation directe dès la première année par des gens, disons, de l'âge des grands-parents, qui étaient des amis des grands-parents, disons. Mmh. Le papa et la maman ouvrant une boutique étaient trop occupés pour voir ce qu'ils en étaient, donc on m'a placé pour quelques mois chez des vieux et j'y ai passé quasi 20 ans, voilà.
20
donc
ans,
donc je voudrais parler de la qualité d'éducation que j'ai pu avoir dans... avec cette différence de génération, un vieux qui représentait en même temps l'autorité, mais la distance, la douceur, quelqu'un de très posé par rapport à un père qui aurait développé plus facilement son autorité violente, et une maman complètement minimisée par rapport à son mari, et ma vieille était la tendresse totale, donc qui est toujours présente en moi, alors que j'ai 64 ans et qu'elle est morte il y a 40 ans.
Ah oui, vous dites ma vieille parce que vous vivez actuellement sur le continent africain ou parce qu'on disait comme ça aussi chez vous en Belgique?
Depuis longtemps, je vis en Afrique.
Oui, parce qu'il faut bien préciser pour nos auditeurs qui ne sont pas sur le continent africain que ça n'a pas du tout de connotation péjorative, hein, de dire mon vieux ou ma vieille. Hein.
Au contraire.
Ah non, non, ouais, non, c'était à l'africaine, effectivement. Quand je dis ça, c'est très tendre. Ouais, c'est vrai que ça ne se dit pas comme ça chez les Belges.
Mais alors, donc, c'était des grands-parents par procuration, finalement.
Voilà, tout à fait, ça revient au même.
Ça revient au même.
Je les appelais parrain et marraine sans qu'ils soient vraiment de la famille. Ouais. Tout s'est bien passé pendant autant d'années. Je subissais l'influence plutôt violente de mon père, une fois par semaine, avec une raclée quelques fois par an. Mmh. Mais du côté de mes yeux, tout s'est passé sur un plan de relations humaines beaucoup plus stable et intéressant. Je dirais qu'ils ont permis au total aux petits enfants d'entrer dans le processus d'individuation et de ne pas être formaté dans une famille normale, une école normale juste à côté, etc. etc. quoi. Mmh. Quand j'entends, disons que je fais un parallèle effectivement avec les grands-parents, voire les oncles maternels en Afrique, et là j'entends sur RFI que ça commence à disparaître ici, c'est très déplorable. Ouais. Parce que c'est un peu ce que j'ai vécu en Europe et qui a été totalement positif. Ouais.
On va donner la parole à Patrick Avran. Qu'en pense le psychanalyste que vous êtes, Patrick Avran, de cette histoire d'une éducation par des grands-parents par procuration ?
Les grands-parents par procuration, on pourrait dire que le phénomène se multiplie en Europe aussi, dans la mesure où il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les familles recomposées. Ils sont grands-parents par procuration, ils occupent cette place-là. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'ils occupent de leur place. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'ils sont d'une certaine façon les grands-parents, parce qu'ils ont cet âge-là, ils ont eu en général des enfants, donc ils savent ce que c'est que d'être grands-parents. Et puis, il y a des grands-parents qui ne sont pas disponibles. Donc, ils viennent là. Je pense qu'il y a quelque chose,
vous
effectivement.
Vous pensez à quel type de cas concret ? Par exemple, à une grand-mère qui change de conjoint et qui vit oui. avec un homme qui a lui-même des petits-enfants qui ne sont pas les siens ? Ou à quoi vous pensez comme cas concret
Alors, il y a quelque chose qu'ont remarqué les sociologues et que je pense qui est très important, c'est qu'en général, c'est quand même la lignée de la mère Absolument. Qui est présente. Oui. C'est-à-dire que si une grand-mère maternelle quitte son mari, c'est-à-dire change de grand-père, d'une certaine façon. À ce moment-là, son nouveau conjoint va devenir plus facilement le grand-père maternel. Il y a quelque chose qui est présent, je pense que c'est lié, c'est le psychanalyste qui parle là, il y a une différence quand même radicale entre le passage d'une mère à une fille. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se fait, hein, qui est de l'ordre du naturel, entre guillemets, même si ce n'est pas un terme de psychanalyste. Et ça, on retrouve ça, il me semble, à travers les siècles. C'est donc toujours du côté de la mère que ça se passe, donc, en grande majorité.
Conclusion, pas facile d'être grand-mère quand on n'a eu que des fils.
Non, ce n'est pas...
C'est mon cas, témoigner que ça peut s'inverser aussi, parce qu'on a des enfants qui, effectivement, nous amènent aussi, avec un deuxième mariage, par exemple, des conjointes qui, elles-mêmes, avaient déjà des enfants. Donc on se retrouve grands-parents de cœur, et moi je trouve que c'était dans le témoignage qu'on a eu, c'est vraiment ça, et c'est ça qui va se développer dans nos sociétés demain, des grands-parents de cœur qui n'ont aucun lien de sang. Et moi je vois une de mes petites filles, belle petite fille, qui passe son temps à me dire « tu veux pas qu'on échange notre sang ?» Alors on se fait des petites blessures pour échanger notre sang, parce que ça la perturbe qu'on n'ait pas de lien de sang, mais le cœur est là, et ça n'a aucune espèce d'importance, et au contraire je dirais que ça crée une complicité, peut-être encore plus grande. Donc c'est ça que je voudrais dire aux grands-parents.
Parce que vous êtes d'une certaine façon choisi, c'est ça, quelque part.
Absolument. Hein, c'est un vrai cadeau qu'on se fait réciproquement.
Le symbolique prime. Le symbolique prime, et votre petite fille qui vous demande d'échange du sang, il suffit qu'elle vous le demande. Hein, c'est pas la peine d'échanger le sang. Ça veut dire que quoi ? C'est qu'il y a du symbolique qui est là avant tout le reste.
Nous donnons la parole à Ramatoulaye qui nous appelle de Casablanca. Bonjour Ramatoulaye.
Oui, bonjour Emmanuel.
Vous êtes au Maroc, mais vous êtes nigérienne.
Oui, exactement. Je voudrais témoigner par rapport au rapport qu'ont mes enfants avec leur grand-mère. Ma mère, donc, est une personne intellectuelle, institutrice de formation, et elle nous a beaucoup soutenus parce que quand on devait faire des études supérieures, elle nous a aidés par rapport à... Je ne dirais pas l'éducation, mais plus la nourrice par rapport à nos enfants qui étaient très attachés à elle. Et je sais aujourd'hui l'amour que mes enfants portent à leur grand-mère. Ils sont dispersés plus ou moins dans le monde, mais je peux vous garantir qu'il ne se passe pas un week-end sans qu'on appelle chez grand-maman pour savoir comment elle va. Elle a un certain âge déjà, mais c'est toujours un plaisir pour eux de se retrouver autour de leur grand-mère.
Oui.
Et à aucun moment, je l'ai ressenti comme si elle me prenait ma place. Bien au contraire, je sais que sa présence nous a aidés énormément et elle a apporté énormément à ses petits-enfants qui essaient aujourd'hui de leur rendre à leur façon. Oui.
Mais vos enfants n'ont pas grandi géographiquement proches de leurs grands-parents?
Si, ils ont grandi géographiquement, mais pas dans la même concession africaine, comme on le dirait.
D'accord.
On avait une maison dans la même ville, mais ils passaient les journées avec elle. Au Niger, ils passaient les journées avec elle.
Ah oui.
Quelquefois, les nuits, quand on devait aller pour des gardes, des choses comme ça.
Oui. Et vous ne l'avez jamais vécu comme une concurrence?
Non, pas du tout. Pas du tout. Bien au contraire, comme une complémentarité, comme une aide. Et j'aimerais bien pouvoir reproduire ce schéma et que mes petits-enfants me voient, aient le même regard que ce qu'ils portent aujourd'hui sur ma mère.
Alors justement, peut-être vous pourriez donner des conseils à ceux qui nous écoutent et qui se demandent quel grand-parent je voudrais être ou quel grand-parent je vais être. Hein. Qu'est-ce qu'il faudrait selon vous pour que le grand-parent soit à la fois respecté, ne soit pas perçu comme une immission dans la vie, dans l'éducation prodiguée par les parents avec leurs petits-enfants? Qu'est-ce qui fait que ça a si bien fonctionné dans la personnalité de la grand-mère, de votre mère en l'occurrence?
Moi, je crois que ce qui a fonctionné, c'est qu'elle est restée effectivement dans le rôle de la grand-mère aimante, mais pas dans le rôle de l'éducatrice. C'est vrai que quelquefois, en aparté, moi, elle a eu à me dire, je pense que tu devrais tu devrais, mais jamais en frontal, jamais devant les petits-enfants.
Ah oui.
Donc, devant les petits-enfants, il y avait la grand-mère, il y avait la mère et il y avait eux. Je pense qu'en Afrique, comme partout ailleurs, les aînés donnent des avis. Ce ne sont que des avis qu'elles donnaient, des avis qu'on discutait quelquefois, que j'appliquais quelquefois et d'autres fois non, mais ça a toujours été dans le respect.
Donc bien préciser qu'il s'agit seulement d'un avis.
Oui, tout à fait.
Merci beaucoup de nous avoir appelé, Ramatou Lai, nigérienne au Maroc. Alors justement, on arrive au terme de cette émission. J'aimerais vous demander à tous les trois, parce qu'à la fois vous travaillez sur ce sujet-là et en même temps vous vivez cette grand-parentalité, quel est l'art d'être grand-parent et que ça marche, si je vous pose la question à tous les trois. Claudine Attias-Donfu.
Oui, moi je pense qu'il est important que les grands-parents sachent reconnaître à leurs enfants leurs qualités et leurs compétences de parents. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une compétition éducative entre les grands-parents et les parents, et que les jeunes parents ont besoin d'être reconnus dans leur nouveau rôle, dans leur nouvelle génération, par les parents. Et qu'il risque d'y avoir des jalousies entre l'amour que les grands-parents portent aux petits-enfants et à leurs enfants. Voilà, c'était de tenir compte de cette importance de reconnaissance.
Et pour vous, Armelle Le Bigot-Maco, vous qui en plus vous voyez des expériences très différentes entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud.
Mais je pense que le mot clé, il a quand même été dit par cette dame qui parlait de complémentarité. Je pense qu'il faut pas aller se battre sur le terrain de la concurrence, en effet, avec les petits-enfants. En revanche, les territoires sont tellement vastes, les territoires de complicité, les territoires de... Voilà, et je le répète, moi, mes petites filles m'apportent énormément, peut-être plus que moi, je ne peux même leur apporter.
Qu'est-ce qui vous étonne
dans ce
que vous voyez
tout le temps dans l'école des grands-parents européens?
Et qu'est-ce qui vous étonne à l'échelle européenne dans des pratiques de grand-parentalité, notamment en Europe du Nord?
J'ai envie de dire que tout dépend aussi du rôle de l'État. C'est-à-dire que je parlais des pays nordiques, par exemple, où l'État a pris totalement en charge la garde des petits-enfants. Donc, si j'ose dire, les grands-parents, là, c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire qu'on n'attend pas grand-chose d'eux, mais ce qu'ils donnent, ils le donnent. Et ils le donnent en toute liberté. En Europe du Sud, c'est exactement l'inverse. S'il n'y avait pas les grands-parents, la société s'arrête de tourner. La France a cette chance d'être entre les deux, c'est-à-dire qu'on a, des gardes d'enfants qui sont relativement bien organisés, et quand même, les grands-parents donnent, en France par exemple, 23 millions d'heures de garde hebdomadaires, c'est colossal, hein, c'est 650 000 emplois à temps plein.
Et derrière, il y a des grands-parents qui ne veulent pas seulement être corvéables et des objets utiles. Hein.
Et du coup, c'est vrai que c'est cette tension terrible qui fait qu'il faut que les grands-parents, oui, trouvent leur place dans cette, je le répète, cette complémentarité extraordinaire.
Patrick Avran, pour vous.
Alors, vous savez, quand j'écris un livre, je me sers toujours d'autre chose. Là, ce que je conseillerais, c'est ce que j'ai fait dans ce livre, c'est de regarder, de revoir à nouveau, parce qu'en général, tout le monde l'a vu, La fille du puisatier. Vous voyez La fille du puisatier et vous comprenez à ce moment-là le rôle des grands-parents. Et alors, il y a quelque chose, le film se termine avec ça. Ce sont les parents qui disent aux grands-parents, cet enfant n'est pas à vous, c'est vous qui êtes à lui. Je crois qu'il y a quelque chose, effectivement, qui est essentiel. C'est dans ce passage, à la fois, il y a une demande qu'il s'agit d'entendre, c'est-à-dire que les grands-parents sont là pour entendre la demande, entendre la place qu'on leur demande de prendre, les tâches qu'on leur demande de faire, sans vouloir l'imposer, parce que c'est quand on veut l'imposer à ce moment-là qu'il y a des conflits. Et puis, il s'agit aussi que les parents sachent qu'ils peuvent demander quelque chose qui n'est pas nécessairement ce que les grands-parents attendent. C'est dans le dialogue que ça se passe.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. C'est une belle leçon, en tout cas, et de sages conseils, mais vous étiez là pour ça, justement. Merci à vous trois. Patrick Avran, psychanalyste, vous publiez Les grands-parents, une affaire de famille aux presses universitaires de France. Armel Le Bigot-Maco, vous êtes présidente de l'école des grands-parents européens. Et Claudine Athias-Donfu, vous avez publié en tant que sociologue, notamment Grands-parents chez Odile Jacob. Merci à vous tous pour vos très beaux témoignages et votre sincérité et votre spontanéité dans vos appels. Merci à toute l'équipe. Demain, 7 milliards de voisins, nous rediffusons notre émission sur l'eau en Afrique. Comment faire baisser la facture? De Bamako à Abidjan, les plaintes des consommateurs sont récurrentes. Ils trouvent leur facture d'eau trop salée, à tel point que dans certaines villes, les voisins qui ont les moyens et de l'eau sous leurs pieds se font creuser un forage, histoire de ne plus avoir de discussions stressantes avec la société d'eau. Alors, le prix de l'eau est-il trop élevé? Est-il possible d'améliorer la distribution et la commercialisation de ce bien commun? À demain, les voisins.